noir ni blanc. D'un extrême à l'autre, il y a tout un monde. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Bon vendredi tout le monde. Bonjour
déjà,
Guillaume.
Déjà vendredi.
Il reste officiellement 2 semaines
Arrête.
À l'émission.
Non.
Et je veux pas, nous faire
je
mal
fais
comme ça.
De l'évitement de ce film. J'évite. Non, c'est pas
en pleine conscience, je fais de l'évitement.
Pas du tout, je n'évite pas. Mais tu sais que si tu es conscient de ton évitement, c'est pas réellement de l'évitement.
Ouais, c'est ça l'affaire.
C'est comme ça devient une stratégie. Fait que, bon.
Ça fonctionne pas. Non, il reste exactement 2 semaines pour l'émission Ni Noir ni Blanc. Mais on va essayer de pas trop y passer. On va se concentrer sur l'émission d'aujourd'hui.
Il nous reste plein de fun encore.
Absolument. La dernière avant la fin de semaine. Alors, on a très hâte de vous parler encore une fois aujourd'hui. Une émission bien intéressante pour vous. Oh, courrier du cœur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
beaucoup
eu.
Beaucoup de demandes.
Des demandes, oui. Puis ça faisait longtemps qu'on avait fait un segment un petit peu plus éducatif sur... en fait, un segment truc. Je vais les appeler comme ça parce que tu nous donnes des trucs. On en a fait la semaine dernière, je pense la semaine d'avant aussi. Et là, on était dû cette semaine. Alors, pour le courrier du cœur, segment truc, comment survivre à une rupture? Oh, que ça va être intéressant, ça.
Oui, parce que c'est pas facile. Puis on a beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Puis j'en accompagne beaucoup. Hein.
Ouais.
Souvent, tu sais, dans des transitions de vie, là, quand tu bouges, ta vie change, ben là, à un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses. Puis ça remet en question des fois ton couple. Fait que là, ça fait partie des transitions.
Absolument. Mais si vous êtes en couple depuis longtemps, puis vous n'avez pas de problème de couple, mais vous avez des adolescents à la maison ou des jeunes adultes, ben c'est peut-être bon de savoir, de connaître ces étapes-là pour mieux comprendre votre jeune, par exemple. Alors ça, c'est à 11h30. Ensuite, à 11h, on va parler d'insultes sur les réseaux sociaux. Phénomène, évidemment, qui est présent dans nos vies depuis plusieurs années, depuis l'avènement des réseaux sociaux, qui ne semble pas du tout s'améliorer malgré toutes les tentatives des gouvernements en place et de différentes personnes pour tenter d'amoindrir le problème d'insultes sur les réseaux sociaux. Ça part d'où exactement ça? Guillaume a un point de vue assez intéressant là-dessus. On va vous en parler à 11h. Mais d'abord... Hier, on a parlé d'un sujet, je me souviens plus comment c'est arrivé sur le sujet, mais on a parlé des actions ou des gestes réparateurs à l'école lorsqu'il y a un conflit entre deux enfants.
Oui.
On parlait du fait qu'il fut une époque, en tout cas quand moi j'étais à l'école, quand tu avais un conflit avec un autre enfant, tu présentais tes excuses et puis après ça, le conflit était réglé. Merci, bonsoir, on continue à jouer. Maintenant, dans les écoles, il semble y avoir aussi la notion de geste réparateur qui a été amenée, c'est-à-dire que tu t'excuses et ensuite tu fais un geste pour réparer ce que tu as fait de mal. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont écrit après l'émission pour me dire qu'ils trouvaient ça complètement fou, cette affaire-là de gestes réparateurs, que c'était vraiment sans bonnes intentions, que les jeunes ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ça, qu'ils se demandaient à quel point c'était utile, mettons.
Ouais.
Et ça nous a amené à réfléchir au fait qu'on se rend compte que de plus en plus, les méthodes d'éducation ont changé dans les écoles, ont évolué. Puis c'est normal que ça évolue, mais des fois, tu te demandes, Guillaume, si on s'en va dans la bonne direction réellement. Et une des choses que tu as observées de par tes clients et des gens autour de toi, c'est qu'à l'école maintenant, il ne semble plus y avoir une notion de gagnant et de perdant dans les sports.
Oui, on évacue de plus en plus cette notion-là, c'est-à-dire que des personnes qui atteignent des buts et d'autres qui ne réussissent pas à atteindre des buts ou des objectifs. Donc, il y a des gens qui gagnent et il y a des gens qui perdent, par exemple en sport. On n'aime plus ça maintenant.
Et ça se traduit en fait par le fait que, bon, avant, tu avais tout le temps le meilleur dans un sport. Hein? C'était lui qui gagnait tout le temps. Et tu avais quelqu'un qui était, ou plusieurs personnes qui étaient malheureusement un petit peu moins bons. Mais le gagnant était quand même souligné. Bravo, c'est toi qui as gagné. Maintenant, on a l'impression qu'on donne un petit peu des médailles à tout le monde. Hein?
Oui.
Et on tend un petit peu plus vers cette réalité-là. Et que ce soit dans n'importe quel aspect. Là. Souvent, à la maternelle, à la fin de l'année, par exemple, là, les enfants ont passé à travers la maternelle. Ils ont une tonne de médailles et de trophées pour les féliciter. En fait, on donne des médailles à tout le monde et non pas à ceux qui ont gagné dans une épreuve ou dans une discipline en particulier. Et c'est la question qu'on va vous poser ce matin, les auditeurs. Faut-il donner des médailles à tout le monde? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Est-ce qu'on devrait évacuer totalement le concept de gagnant et de perdant? Est-ce que c'est ça qui est le mieux pour les enfants, selon vous, ou on doit encore avoir la notion de gagner quelque chose? Est-ce que c'est encore important? Alors, faut-il donner des médailles à tout le monde? Guillaume?
Ben, moi, mon opinion là-dessus, c'est clair que c'est absolument négatif de récompenser tout le monde parce que c'est comme neutraliser ce qu'on appelle la compétence, qui est la première ressource dont on a besoin social, la première source de valorisation personnelle, c'est-à-dire manifester un talent, puis d'être reconnu pour un talent, ce qu'on appelle la valorisation personnelle, d'une part, et l'autre, c'est qu'on a besoin de nos talents, de nos compétences pour être une personne active dans la société, puis contribuer à la société. Donc, la notion d'équipe, c'est-à-dire on est une personne, mais on vit en société, puis on faut contribuer à la société. Et c'est la compétence qui est importante. Il n'y a absolument rien d'autre comme marchandise humaine qui est importante que la compétence. Et là, on fait le sacrifice de ça pour s'adapter aux émotions. C'est-à-dire maintenant, on est dans des courants où on surprotège les gens et on veut éviter des émotions négatives. Donc là, au nom de toutes sortes de concepts, là, pas tout à fait appuyés, dont l'estime de soi, qui est comme l'espèce de méthode pour aller bien dans la vie qui est depuis les années 90, là, c'est qu'il faut absolument qu'une personne se sente bien à propos d'elle en tout temps. Donc, c'est l'évitement de toute forme d'émotion négative par rapport à elle-même. Et donc, il faut essayer de neutraliser ça avec une compensation externe. Et on donne des rubans, des médailles à tout le monde. Et il faut absolument pas que personne se sente brimé présentement.
Mais l'affaire que je me demande, moi, c'est si tu réussis à convaincre tous les jeunes qui sont bons et extraordinaires dans toutes les disciplines, comment ils vont réellement trouver celle dans laquelle ils sont bons et dans laquelle ils veulent continuer à évoluer? Je vais donner un exemple. C'est pas tout le monde qui est bon dans les sports. Vraiment pas. Mais peut-être que cette personne-là qui est pas bon dans les sports, qui est pas bonne dans les sports, va être très, très bonne en musique ou en art plastique et va se dire, ben, j'ai réussi à performer dans ce domaine-là, donc je vais mettre mes énergie là-dedans et essayer de progresser. Mais il faut que tu aies la notion de ça, je suis moins bon là-dedans, mais ça, par exemple, je performe très bien puis je vais me concentrer là-dessus. Mais si tu évacues la notion de gagnant et de perdant puis que tu ne valorises pas quand quelqu'un performe mieux que les autres, comment tu vas faire pour motiver les jeunes dans une direction?
Tu ne peux pas les motiver dans une direction. Parce que si tu aplanis les différences de compétences, ça veut dire que tu viens de neutraliser au complet toutes les formes de compétences. Fait qu'une personne qui est plus compétente dans quelque chose, donc elle peut mieux se valoriser ou mieux contribuer à la société, elle ne verra pas nécessairement la différence entre le feedback lorsqu'elle est compétente ou lorsqu'elle est incompétente. Et c'est extrêmement grave parce qu'un humain se valorise avec de l'individualité, c'est-à-dire je suis moi, j'ai mes propres talents, ma propre façon de voir les choses, puis je suis capable d'enrichir ma propre vie unique à moi et d'enrichir la société unique à moi. Donc, ça permet mais on a besoin de systèmes qui permet de discriminer des choses, de dire « ça, je suis moins bon là-dedans, j'aime moins ça. Ça, je suis meilleur là-dedans, je contribue mieux. » Donc, ça prend de l'inégalité. Donc, ça, et là, en ce moment, on est dans des courants où ce n'est que l'égalité. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On va en parler à 10h45, là, les formes d'égalité. Mais c'est comme l'espèce de mot d'ordre qui aplanit tout. Et c'est extrêmement dommageable parce que c'est le sacrifice de la compétence et donc de la valeur.
Les auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il donner des médailles à tout le monde? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Lucie est avec nous pour nous parler. Bonjour, Lucie.
Oui, bonjour. Moi, je suis d'accord là, que c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai 3 enfants, puis je trouve que ça les démotive, ça les dévalorise aussi parce que ça vaut pas la peine de faire d'efforts. Dans le fond, on est égal. Même si je donne l'effort puis je suis le meilleur dans ce que je fais, ben, tu sais, je suis égal à tout le monde finalement. Fait que c'est moi, j'aime pas. Puis, tu sais, j'ai 3 enfants, j'ai des jumeaux, j'en ai qui sont très, tu sais, même les jumeaux sont très différents. J'en ai un qui est beaucoup plus, tu sais, facile justement à l'école et tout. Mais mon autre, elle a un petit peu de difficulté, mais côté social, c'est beaucoup plus facile. T'sais, elle a plein d'amis puis tout ça. Fait que même, tu sais, dans mes enfants, je les traite pas de la même façon. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Fait que je suis comme pas pour... Je suis pas pour... Dans mon temps, on donnait les notes à voix haute dans la classe, puis même ceux qui coulaient, t'avais 43, tu le disais en pleine classe, ça, peut-être pas.
Non, là, c'est ça. Ça, c'était correct qu'on ait évolué là-dessus.
Oui. Mais sûr, pour récompenser l'effort, non, ça, je suis pas d'accord.
Mais Lucie, est-ce qu'il y a des disciplines dans lesquelles vos enfants sont meilleurs que les autres et vous sentez qu'ils sont un petit peu brimés là-dedans?
Oui, bon, mon plus vieux, tu sais, il est très fort intellectuellement, mais il est un peu moins fort en sport, justement. Okay. Puis, justement le fait de pas donner une note, le fait de pas récompenser,
ouais,
comme tu sais, il voit pas cette force là par rapport au sport qui est très important, fait que là
il est pas
voit...
valorisé en fait là dans
non,
le fait que de bonnes notes là. Ouais, je comprends.
Puis s'il serait plus valorisé dans le fait que des bonnes notes, ben il se sentirait un petit peu moins, parce qu'il y a un petit peu de misère à suivre en éducation physique sur
certains
sports.
Exactement. Ça, je suis très d'accord avec vous, Lucie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Si cet enfant-là sentait qu'il performait mieux que les autres dans un domaine en particulier, ben ça fait mieux passer la pilule d'être moins bon dans un autre domaine. Regarde, moi, ma force, c'est pas là, mais c'est là, par exemple.
Oui.
Là-dedans, je suis meilleur que les autres. Toi, t'es peut-être meilleur que moi dans les sports, mais pas là-dedans. Ça permet peut-être de bâtir une certaine confiance en nous si on a l'impression,
oui,
ou ça permet de mieux accepter le fait qu'on est moins bon dans certaines disciplines, tu sais.
Oui, ben on a absolument besoin de différences dans la compétence parce que il y a des différences individuelles. Ça, c'est un autre tabou en ce moment. On veut pas de différences individuelles parce que c'est considéré comme étant de l'oppression ou de l'injustice ou de la discrimination. Les humains sont inégaux. On n'est pas des clones, on a des forces différentes et ça veut dire qu'il va y avoir des compétences différentes. Et on n'est pas capable d'accepter ça avec certains courants. Puis il y a beaucoup, beaucoup de militants là en ce moment qui luttent contre toutes les formes de différence. Alors que l'idée même de l'humanité, c'est la différence et c'est l'idée de valoriser ces différences-là pour en faire des forces et rendre ça constructif. Parce que si tu n'acceptes pas des différences et si on veut pas développer de la compétence, ça veut dire que tous les processus d'éducation ne servent absolument à rien.
Je vais te lire un texto juste avant d'aller à la pause. Quelqu'un nous écrit « Il n'y a plus d'Olympiade dans mon école où mes enfants vont et dans les sports, on ne tient pas de classement avant l'âge de 13 ans. » Ça veut dire durant tout le primaire, là, dans les sports, à cette école-là, il n'y a pas de classement en tant que tel. Comment tu fais pour savoir si telle équipe a gagné ou telle équipe a mieux performé? Je veux dire, je pense que quand tu as 10 ans, 11 ans, tu es capable de vivre avec le fait que ton équipe a perdu ou a gagné. Là.
Bien, je comprends qu'il faut adapter selon l'âge.
Oui.
C'est correct, ça, mais il faut garder à l'esprit qu'on veut éduquer un enfant à être responsable d'un comportement puis qu'il apprenne en fonction du feedback, des rétroactions, des résultats qu'il a, qu'il se pose la question « qu'est-ce que je peux améliorer? » et ne pas bâtir une espèce de narcissisme isolé de dire « je mérite une victoire ». Ça ne va pas au mérite dans la vie. Donc, on est vraiment dans le champ, là, présentement. On s'en va tout droit vers un mur. Puis, écoute, faites juste ouvrir le journal. C'est comme, je suis un peu découragé tous les matins. C'est la promotion. C'est vraiment la promotion de l'égalité sans aucune espèce de restriction ou de subtilité.
Puis, on est dans les Olympiques présentement. Guillaume, t'as fait du sport de haut niveau, toi, en natation. On s'entend que, habituellement, les talents, on les reconnaît autour, dès l'âge de même 5 ans, parfois. 5 ans, 6 ans,
oui,
7 ans, 8
rapide,
ans. C'est
d'habitude.
Très, très jeune. Mais il faut, oui, que ces jeunes-là soient au courant qu'ils ont un talent de plus que les autres. Si on veut les amener un jour à se développer pour être athlète olympique.
On a besoin de talent, on a besoin des compétences, c'est ça l'idée du truc. Et on a besoin de personnes qui sont compétentes puis qui ont des grands talents pour dire « wow, tu vois, quand tu développes un talent, ça vaut la peine ». Au nom de l'égalité, au nom de l'antidiscrimination, de façon, je veux dire, sans aucune restriction, ben, et au nom des émotions négatives qu'on ne veut pas avoir, puis on ne veut pas heurter personne ou offenser quelqu'un, ben on met ça dans l'évidence, là, carrément.
On doit s'arrêter pour la première pause de l'émission. Faut-il donner des médailles à tout le monde? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. On vous parle tout de suite après la pause. On a déjà Jessica qui attend pour nous parler. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc. On se retrouve dans quelques minutes.
Ni Noir ni Blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Vous en avez long à dire, c'est le fun, on
oui,
s'en va vous parler à l'instant.
Sais-tu quoi,
oui,
j'espère quasiment quelqu'un, non pas quasiment, j'espère que quelqu'un va dire « Non, non, il faut absolument récompenser tout le monde. » J'espère que des gens qui vont essayer de défendre cette idée-là.
Puis on va
comment...
vous écouter. On va vous écouter.
Absolument.
Faut pas
c'est
avoir
pas
peur
le rationnel
d'appeler.
En arrière de ça.
Exactement.
Oui.
Si vous êtes de cette opinion-là, absolument appelez. On veut vous écouter, on veut vous entendre. On est sans jugement. On est vraiment dans une discussion ouverte. Doit-on donner des médailles à tout le monde? Jessica est avec nous. Bonjour.
Allô?
On vous écoute.
En fait, moi, je suis très déchirée entre les deux. Faisant moi-même de l'anxiété de performance, j'en ai souffert tout le long de mon parcours scolaire parce que à vouloir performer, vouloir être la meilleure, je finissais à échouer dans tout. J'avais tellement de stress que je n'étais pas bonne en sport parce que j'étais trop stressée. Mais là, ayant des enfants, je me dis, j'aurais aimé ça au secondaire que tout le monde gagne pour m'enlever ce stress-là. Sauf qu'aujourd'hui, je sais très bien que c'est pas bon. Mon garçon, je le vois il y a 5 ans, presque 6 ans, il fait de l'anxiété performance aussi. Aussitôt qu'il manque un but au soccer, il se trouve poche. Donc, je vois la nécessité quand même d'apprendre à nos enfants que oui, on perd et on gagne dans la vie, mais en même temps, quand on est tellement anxieux, c'est difficile.
C'est clair que c'est difficile et c'est précisément le défi auquel il faut s'attaquer le plus rapidement possible parce que effectivement, ce l'est. De l'anxiété de performance, les jeunes sont de plus en plus anxieux pour différentes raisons. L'anxiété a augmenté beaucoup, mais la pire chose, c'est de protéger cette anxiété-là. Au contraire, il faut être extrêmement ferme, puis ça prend beaucoup de stratégies précises pour pratiquer cette anxiété-là et s'exposer à des choses précises, entre autres la déception, comment apprendre d'un échec, comment être résilient. Il y a toutes des techniques pour faire ça. Et donc, oui, quand on les a pas ou on les pratique pas, c'est extrêmement souffrant, cette anxiété-là de performance. Et ça va se développer jusqu'à ce qu'un enfant ne relève plus de défis ou ne se mette plus en position où il pourrait peut-être échouer.
Ben c'est ça, parce que ça fait quand même quelques semaines que je travaille avec toi. Puis s'il y a une chose que j'ai appris avec toi, c'est que quand on fait de l'anxiété, que ce soit de l'anxiété de performance ou anxiété reliée à d'autres choses, la pire chose à faire, c'est d'éviter de s'exposer à cette anxiété-là.
C'est la pire chose au monde.
Il faut au contraire s'exposer à petites doses pour apprendre à gérer cette anxiété-là.
Un dosage qui est respectueux pour une personne, oui, puis il y a toute une façon de le faire de façon sécuritaire, oui, ça c'est vrai, il faut l'adapter, tu sais, idéalement parlant. Mais la neutralisation de ça, c'est-à-dire sortir d'un défi, ou soit, puis l'évitement, ben en donnant des médailles à tout le monde, c'est de l'évitement. Ça sert l'évitement. Donc, c'est la pire stratégie qu'on peut faire.
C'est retirer tous les enjeux ou les facteurs anxiogènes qui pourraient arriver chez un enfant. En fait.
Et donc, tu coupes son potentiel de se responsabiliser sur sa capacité de dire, hey, même si tu n'as pas réussi là, tu es capable de faire quelque chose. Donc, on ne peut pas bâtir la vision d'un enfant positive s'il n'est pas capable de surmonter des défis et des échecs. C'est impossible.
Allons parler à Gabriel maintenant. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui.
Oui, cool. Et moi, je suis un coach de football. En fait, ancien coach de football. J'ai joué au football toute ma vie, puis au hockey dans l'élite. Okay. Et ce que j'aimerais te dire, c'est vraiment la différence entre le développement, les niveaux de développement et les niveaux de l'élitisme. Aujourd'hui, l'élitisme, on dirait dans le sport, il n'y en a plus. Mm-hmm. Parce que les parents, ils veulent développer des enfants rois. Oui. Ça, c'est un gros, gros problème. Moi, j'ai arrêté de coacher quand j'étais plus capable. Oui. Et puis, on n'a plus le droit de chicaner un jeune sur le terrain. On n'a plus le droit de leur montrer c'est quoi. Mais moi, je suis coach au football, donc je vais parler pour le foot, pour le hockey, là. L'élitisme, c'est important. Là. C'est vraiment important qu'un jeune comprenne que si tu veux performer, puis tu veux avoir du terrain, il faut que tu le mérites. Là. C'est vrai que tes parents te payent pour un sport, que tu vas jouer égal avec les autres. Là. Oui. Ça, je pense que c'est aussi l'âge est important aussi. C'est sûr qu'à 10 ans, que tu fais dans du moustique 3A, maintenant, par exemple, oui, tu t'entends que ton jeune va jouer un peu plus, même si tu es élite, je suis d'accord.
Ouais.
Mais quand tu as 14 ans, tu as 15 ans, puis tu as 16 ans, c'est encore le parent qui vient te chialer après parce que ton jeune n'a pas joué.
Puis Gabriel, écoute, moi j'ai entendu des histoires. Tu sais, il fut une époque où, par exemple, quand tu coachais une équipe de football, quand les joueurs réussissaient pas bien l'exercice ou écoutaient pas ou quoi que ce soit, ben c'était ah ouais, 50 push-ups pour vous punir. Toute l'équipe fait 50 push-ups. Apparemment qu'aujourd'hui, l'affaire de faire des 50 push-ups pour punir les jeunes, tu peux plus vraiment faire ça. C'est considéré comme étant trop sévère.
Exactement. Puis je suis tellement pas d'accord parce que c'est tellement important parce que c'est de l'élite.
Oui.
C'est ça que les parents comprennent plus. Puis la protection, c'est pas la faute du jeune. Le jeune ne peut pas savoir si c'est un enfant. Si on l'éduque pas de la bonne façon, il ne pourra jamais savoir c'est quoi un échec dans sa vie. Puis l'échec, c'est tellement important de le comprendre à bas âge parce que des échecs, on va en avoir toute notre vie. Même à 50 ans, on va en avoir des échecs. Puis ça, c'est autant pour sur le terrain, autant dans ta vraie vie parce que le football, là, ça représente la vie. C'est un terrain de football. Quand tu joues au football, là, il y a une grosse partie là-dedans, il y a beaucoup d'éducation qu'on fait. Pour que tu sois une meilleure personne, une meilleure individu.
Mais c'est ça. Ça sert à ça, le sport, dans la vie. Le sport, là, c'est juste une espèce de métaphore pour pratiquer des habiletés de vie. C'est juste ça, le sport. C'est pas un jeu innocent. Donc, tu peux pas enseigner aux sportifs, aux enfants de s'impliquer dans un jeu de façon différente à ce qu'ils s'impliqueraient dans la vie. Jamais. tu joues, tu as du plaisir, mais tu as des objectifs. On investit des efforts, on apprend, mais on réalise pas à quel point on n'est pas en train de bâtir la société dont on a besoin. Puis on est en train de bâtir la société que si tu réussis trop, il y a une injustice parce que toi, tu n'as pas aussi réussi. Donc là, tu développes ce qu'on appelle la culture des privilèges illégaux. C'est-à-dire, si tu as gagné, il y a une injustice là-dedans. Parce que moi, j'aurais dû gagner autant que toi. Ce qui est une déconnexion absolue, mais les militants sont beaucoup là-dessus en ce moment, puis c'est comme on est rendu mêlé à un point que dans les écoles, on sait même plus quoi récompenser, on sait même plus qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qu'il faut récompenser, on est-tu trop dur, on est tout mêlé là-dedans, mais on va pas dans la bonne direction, ça c'est clair.
Ben allons parler à Jeffrey, parce que je pense que Jeffrey est pas d'accord avec ton point de vue. Bonjour Jeffrey.
Oui, salut. Ni noir ni blanc, hein, les choses, fait que... Je pourrais dire que c'est possible là, de récompenser tout le monde, mais ça prend des conditions, puis la condition, c'est d'identifier c'est quoi la force de cette personne-là, de la récompenser dans son domaine à elle, là, parce que c'est le problème en ce moment, c'est qu'on demande à tous les enfants de performer dans la course. OK. Puis là, après, on demande à tous les enfants de performer en mathématiques. Puis là, on demande à tous les enfants, mais gars, ça se peut que les maths, ça soit pas ton fort. Mais toi, c'est quoi qui te fait triper? Le dessin? OK, on va aller explorer ça. Puis, gars, on va te mettre en contact avec d'autres enfants qui, eux aussi, c'est ça leur force. Puis, tu vas aller compétitionner dans ton domaine avec des gens qui font la même chose que toi. Puis ça va, de un, te pousser. Ça va, de deux, te motiver. Puis de trois, ben tu vas voir ta valeur pour de vrai versus, ben gars, t'as pas de valeur en maths. Fait que t'as pas de valeur, mais tu sais, t'es comparé à plein d'autres mondes.
Ah, on est d'accord, Jeffrey.
Mais je vois pas en quoi on est pas d'accord, Jeffrey.
Ah, c'était peut-être un petit peu pour amener une nuance, mais un petit peu hypocrite, si on veut.
Ben oui, parce qu'on est tout à fait d'accord avec vous, Jeffrey.
Non, c'est qu'on dit la même chose, Jeffrey. C'est dans la vie, on peut pas être récompensé pour des comportements qu'on ne fait pas ou des standards ou une compétence qu'on n'a pas. Alors, l'idée dans la vie, c'est on fait toujours le mieux possible, puis on essaie de s'améliorer. Et en parallèle, on apprend c'est quoi nos forces et encore plus capitaliser sur nos forces. C'est exactement la mission dans la vie. Puis si on n'a pas une force dans un domaine, ben je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à aller s'acharner, à essayer d'être extraordinaire dans un domaine si c'est pas une force. Donc c'est tout à fait compatible avec le fait d'aller dans des habiletés qui sont inhérentes à la personne, puis valoriser ça, c'est parfait. Mais la récompense, indépendamment de la compétence, ça c'est un autre sujet. Donc c'est pas du tout incompatible. En fait, ça va 100% dans le sens de ce qu'on dit.
Le sujet dont on parle, ça me fait vraiment penser. Là. Il y a une série de documentaires qui avait été faite sur le camp de sélection du GTI, de l'escouade GTI de la Sûreté du Québec. Donc, okay. Les policiers qui sont les plus armés, qui vont aller sur les situations les plus dangereuses, le groupe tactique d'intervention.
Okay.
C'est un camp de sélection qui prennent genre une dizaine de personnes sur des milliers d'applicants, là, presque, oui. Là, ou des centaines. Et ils ont suivi, en fait, les caméras sont entrés là-dedans pour voir du début, du premier jour du camp, ouais, jusqu'à la fin. Écoute, ces militaires, là, les gars se font engueuler, c'est incroyable. Il faut qu'ils dépassent des compétences physiques qui sont incroyables. Quand ils sont pas bons, ils se font dire qu'ils sont pas bons, ils se font crier dessus.
Ah,
imagine
dur.
Un camp militaire, là, c'est exactement,
ouais,
ça.
Ouais.
Puis on parle du sujet ce matin, puis je me dis, les jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, où tout le monde est gagnant, ils survivraient pas deux heures dans le camp du GTI éventuellement.
Non.
Mais il va falloir qu'il y ait une relève pour le GTI. Il va falloir qu'ils passent à travers ce camp-là un jour. Il faut être fait fort psychologiquement pour faire ça, c'est incroyable. Mais pour ça, je pense qu'il faut avoir été habitué à se faire dire non, puis avoir été habitué peut-être à se faire engueuler une fois de temps en temps, puis se faire dire qu'on est moins bon. Là.
Bien, plus tu veux faire des choses exceptionnelles dans la vie, plus tu dois avoir des feedbacks qui sont précis. Tu n'as pas le choix. Aussitôt que tu t'en vas dans du flou, tu diminues ta capacité à apprendre et donc peaufiner ton apprentissage. Puis là, on va dire, oui, mais c'est pas si important que ça, c'est plus important l'inclusion. OK. Si tu as un enfant, puis il est gravement malade, puis si sa survie dépend d'une opération d'un chirurgien qui est la seule personne qui peut sauver ton enfant, est-ce que tu aimes mieux que ce chirurgien-là ou cette chirurgienne-là soit la meilleure ou la plus compétente, ou qu'elle appartienne à un groupe, ou qu'elle a été juste valorisée toute sa vie puis qu'on connaît pas sa compétence? Non. On veut la meilleure personne et c'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Quand tu vas dans un avion, tu veux un pilote qui est compétent. Tu veux pas juste un pilote qui s'est fait dire qu'il était bon, puis on sait même pas lesquels qui sont bons ou pas bons. Donc, la survie de l'humanité, c'est basé sur la compétence. Tout le reste, c'est de la décoration et du militantisme.
Mais l'idée, c'est de trouver une compétence pour tout le monde. Parce que tout le monde a une compétence ou un potentiel dans un domaine, c'est que, mais ça prend de l'énergie puis du temps pour trouver cette compétence-là.
Mais c'est difficile de trouver c'est quoi ta compétence. Puis même si tu trouves ta compétence, il y a des gens qui vont être meilleurs que toi dans cette compétence-là. Puis c'est comme ça, c'est une répartition inégale des traits de personnalité puis des habiletés. Fait que si on n'est pas capable de se réconcilier avec l'inégalité, on est fini. Parce qu'on va toujours tout neutraliser. Et là, on perd l'essence de l'individualité.
Faut-il donner des médailles à tout le monde? C'est la question qu'on vous pose ce matin. On doit s'arrêter pour une pause. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc. On se retrouve dans quelques minutes.
De tout avec vous. De retour à Ni Noir ni Blanc avec Élisabeth Crête et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
On continue avec ce sujet. Faut-il donner des médailles à tout le monde? C'est vraiment intéressant de vous lire. Puis encore là, si vous n'êtes pas d'accord, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous entendre et d'écouter vos arguments. C'est une discussion qu'on a présentement. Serge est avec nous. Bonjour Serge.
Bonjour, alors merci de me recevoir, puis vous avez un sujet très intéressant en passant.
Merci.
Moi, ce que je voulais mentionner, c'est que on n'est pas tous égaux à la naissance en termes d'aptitudes physiques, mentales, intellectuelles, etc. Mais il y a une chose que sur laquelle on a un contrôle, c'est notre travail, notre effort, notre implication, notre façon de rester en forme physiquement, de bien manger. Ça, on a le contrôle dessus.
Oui.
Et c'est ça qu'il faut récompenser. C'est ces gens-là qui travaillent, qui s'alimentent bien, qui font des efforts. Et parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont beaucoup, beaucoup de capacités, mais ils réussissent pas vraiment. Moi, j'ai vu des gens qui ont été travaillants et ont dépassé des gens qui avaient des capacités. On a qu'à regarder les Olympiques les gens qui sont handicapés. C'est des gens travaillants, c'est des gens qui efforts, qui ont été mal chanceux dans leur vie. C'est un peu le commentaire que je voulais faire.
Mais Serge, merci beaucoup. Ça, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que le travail et le niveau d'effort doit être valorisé aussi, même si on finit pas premier dans une discipline. Ça, je suis d'avis que ça devrait être comme ça. Par contre, rendu à un certain niveau d'élite, c'est certain que c'est la position là qui va compter. Mais quand on est jeune, primaire, secondaire, c'est beaucoup effectivement le travail et les efforts qui devraient être valorisés. Je sais pas ce que t'en penses. Là.
Ben, premièrement, on peut pas valoriser le travail parce que c'est une perception du travail. Puis ça, c'est unique à chaque personne, l'effort, l'intention, OK? Et on peut pas baliser ça. Donc, c'est sûr que je peux pas être en désaccord avec le fait de valoriser le travail, le dévouement, les bonnes intentions. Je pense que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas en lien avec une récompense externe objective. C'est quelque chose qui est subjectif. Mais dans la vie, pour avoir une belle vie, pour avoir du fun, pour sentir que ta vie a un sens, il faut que tu travailles parce que c'est ta façon de t'impliquer dans tes propres activités. Donc, il n'y a pas seulement à gagner des médailles là, dans la vie. Il y a le pourquoi tu le fais puis à quel point tu t'impliques dans ce que tu fais. Et ça, c'est important parce que ça, c'est une motivation de type intrinsèque. Pourquoi tu mets de l'effort dans quelque chose qui t'intéresse? Donc, oui, les médailles, la performance, les critères, la compétence, OK, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le plaisir et le sens que ça a de faire une activité. Puis ça, c'est directement relié à ta façon de t'impliquer dans ton travail.
Juste avant d'aller parler à Sophie, je vais te lire un texto qui est intéressant. Quelqu'un nous écrit « J'étais entraîneur plusieurs années et à l'époque, l'excellence était encouragée très jeune. » On parle de moins de 12 ans. Aujourd'hui, avec le recul, je suis d'avis que jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 12 ans, l'aspect d'excellence ne devrait pas vraiment être mis à l'avant-plan. Avec l'âge, on peut apporter et enseigner cette notion et de toute manière, il va toujours avoir une place pour l'excellence quelque part. Fait que lui, il pense qu'avant 12 ans, avec le recul, avec ce qu'il a vécu, c'est pas nécessaire d'amener la notion de l'excellence.
Mais ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire. L'excellence, qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. C'est un concept. Moi, je ne sais pas c'est quoi de l'excellence. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que le cerveau fait, quels comportements sont renforcés, puis comment on fait de l'éducation. L'excellence, après ça, moi, j'ai aucune idée ce que c'est de l'excellence. La compétence et de la valorisation, Ça, c'est important. Après ça, le niveau, là, à quel point tu veux performer, ce qu'on appelle l'excellence, ça, pour moi, c'est bien plus secondaire. Ce que tu veux valoriser et ce que tu veux enseigner à des gens, c'est comment développer des capacités pour atteindre des objectifs et surmonter des défis. Donc, ça, c'est important. Après ça, ce qu'on appelle l'excellence, moi, j'ai aucune idée c'est quoi, là. Ça, c'est un concept, l'excellence.
Sophie est avec nous maintenant. Bonjour.
Oui, bonjour. Ben, naturellement, je suis vraiment d'accord avec vous. Je vous remercie en passant pour votre émission. J'adore. J'ai un nouveau travail. J'ai la chance d'écouter la radio en même temps que je travaille.
Super.
Elle fait du bien. Moi, ce que je voulais apporter, c'est, ben, on a juste, je trouve que le meilleur exemple, c'est les Olympiques en ce moment. Est-ce qu'on récompense, on donne des médailles à tous les athlètes? Ben non. C'est ceux qui ont fait le plus d'efforts, les gagnants qui ont les médailles. Puis l'autre chose aussi, c'est que je trouve que si on récompense tous les enfants n'apprennent plus à reconnaître qu'il y a des différences.
Voilà,
et
oui.
On dirait qu'il n'y aura plus d'empathie, il n'y aura plus de forme d'entraide entre eux. Et ça, je trouve que c'est... Parce que moi, j'ai eu trois garçons qui ont eu des difficultés. Et justement, j'en ai un qui est super empathique. Et s'il s'aperçoit que d'autres ont de la misère, il va aller aider, il va aller vers les jeunes, il va aller aider un jeune dans sa classe, tout. Mais si on donne les médailles à tout le monde, c'est comme montrer, ben finalement, tout le monde est pareil. Et
oui,
tout le monde,
exactement.
Il y a plus personne qui a besoin d'aide.
Exactement. Sophie, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est un très bon point, ça.
C'est un excellent point.
C'est dans les inégalités aussi, par rapport dans le talent ou le potentiel dans le sport, qu'on peut démontrer notre empathie puis notre entraide aussi.
Ben, oui, mais c'est parce que le but ou l'idée des humains, c'est que puisqu'on est différent, il faut collaborer, puis il faut trouver la façon commune.
Voilà.
Et ça sert à ça de la communication. Si on est tous pareils, la communication ne sert absolument à rien. On est juste des clones, on fait juste la même chose. Puis là, vous allez me dire, ben là, ça, c'est un peu exagéré. Oui, mais il faut regarder les principes qu'on met de l'avant qui mènent ultimement à ça. Et donc, il faut absolument prendre conscience que les humains sont inégaux dans leurs caractéristiques, pas dans leurs valeurs humaines, c'est pas dans la valeur d'humanité. Dans leurs caractéristiques, c'est inégaux. Et donc, il y a des différences. Et donc, ça sert à ça, créer des équipes, ça sert à ça, s'écouter, ça sert à ça, discuter, ça sert à ça, développer de l'individualité. À quoi ça sert de vivre une vie si ça sert à rien d'être toi? Parce qu'anyways, t'es pareil comme tout le monde. Tu neutralises l'individu. C'est vraiment grave récompenser tout sur un pied d'égalité.
Marc est avec nous maintenant. Bonjour, Marc.
Bonjour. Moi, c'est sur deux volets, c'est-à-dire, je suis d'accord pour les sports individuels, c'est-à-dire de récompenser les meilleurs, des choses comme ça. Moi, j'ai œuvré en tant que bénévole dans les sports d'équipe, c'est-à-dire au hockey mineur. Puis à chaque année, quand il y avait les mériteurs, je grinçais des dents.
Okay.
J'aimais pas ça parce que un sport d'équipe, c'est le succès repose pas sur juste une personne. Donc, moi, c'est là que je traiterais tout le monde à égalité. C'est-à-dire, j'avais envie, moi, quand le temps des méritances, de récompenser tout le monde. C'est-à-dire que d'arriver puis donner, quand on donnait une médaille du meilleur joueur, le meilleur joueur, mettons, dans un sport d'équipe, tout ça, moi, j'aimais pas ça parce que c'était un sport d'équipe. C'est pareil au travail aussi. Quand on arrive, on donne le meilleur employé, le meilleur employé. C'est un travail d'équipe, c'est tout le monde qui est impliqué, ça devrait pas. Et tout le monde devrait avoir une récompense dans le fond quand je sais pas comment si je m'exprime bien. Là,
oui, non, c'est très clair et c'est une nuance importante que tu fais. Si dans l'entente du fonctionnement d'équipe, c'est on travaille en équipe ensemble pour atteindre quelque chose ensemble. Ça veut dire qu'il y a un contrat d'équipe qui est fait et il y a une contribution différente et inégale de chaque membre de l'équipe. C'est tout à fait juste et c'est tout à fait normal que si l'équipe performe et atteint un niveau de compétence, c'est normal qu'il y ait une reconnaissance de ça d'équipe. Mais c'est pas une récompense qui est détachée du comportement de l'équipe. Donc encore là, 100% d'accord avec toi, Marc.
Parce que tu prends le sport professionnel, par exemple, puis Marc, on peut même vous parler de hockey mineur, mais au hockey professionnel, par exemple, la Coupe Stanley n'est pas gagnée par un joueur, n'est pas gagnée par le coach ni par le capitaine, elle est gagnée par l'équipe. Puis en même temps, c'est une victoire d'équipe, ça enseigne aux jeunes comment on travaille en équipe pour se rendre à l'excellence, pour se rendre là. Puis c'est là qu'on réalise que chaque membre est important. C'est pas pour rien que s'ils sont dans l'équipe, là. Ils ont un apport. Des fois, c'est un apport qui est moins sur la glace, mais plus dans le vestiaire, en termes de motivation.
C'est ça, ça veut dire qu'il y a des apports qui sont inégaux.
Oui.
Même dans une équipe qui est relativement homogène, c'est tous des super bons joueurs, ça ne sera jamais des clones. Donc, oui, on travaille en équipe. Et oui, il y a des reconnaissances individuelles. Par exemple, on appelle un but. Ben, c'est un but d'un joueur, par exemple. Oui, ça va à l'équipe parce que toute l'équipe a travaillé là-dessus. Et il y a aussi une reconnaissance individuelle. Fait que si on remarque, il y a une superposition des deux types de reconnaissance, ce qui est 100% approprié.
Alors, s'il y a des hauts dirigeants là, du monde de l'éducation qui t'écoutent ce matin, Guillaume, ce serait quoi ton message essentiellement?
On peut-tu aller à la pause avant?
Écoute, tu peux répondre après la pause si tu veux, mais je comprends que l'idée, c'est d'aller plus dans une forme de... Non pas de rechercher l'égalité à tout prix dans les compétences, mais essayer de trouver des compétences pour tout le monde. C'est ça, en fait, l'objectif.
En gros, là, c'est uniquement la valorisation des comportements et des compétences. C'est tout. Toutes les autres choses, ce sont des courants.
On parle d'égalité au retour de la pause.
Ni noir, ni blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
On va te dire de quoi je t'ai coupé le sifflet avant la pause.
Hein? Non, je me suis dit, c'est beau, je vais finir ma phrase, je vais être capable, mais j'ai comme pas calculé que toi aussi, fallait-tu dire.
Quand le thème de la pause part, on sait combien de secondes il nous reste. Plus je disais, finis ta phrase.
Faisais signe. J'achève. Reste deux mots.
C'est pas parce que je prends plaisir à couper le sifflet, au contraire. Guillaume, c'est un sujet dont on voulait parler depuis très longtemps, en fait, que tu voulais aborder. Là, on est dans la section un petit peu coup de gueule de Guillaume. Puis aujourd'hui, c'est la journée parfaite, en fait, pour l'aborder, parce que l'actualité nous amène là.
C'est ça. Puis, j'en ai un petit peu parlé avant la pause, c'est le concept d'égalité. Alors, pour moi, c'est vraiment important de clarifier quelque chose qui n'est pas clarifié dans les journaux, dans les médias. C'est le concept d'égalité. Alors là, en ce moment, l'égalité, c'est comme une espèce de valeur extrêmement miraculeuse, bonne, empathique, inclusive et tout ça. Là, OK, on se fait marteler avec ce concept-là tous les jours. Alors, il faut distinguer deux types d'égalité. Il y en a une qui est bonne et il y en a une qui est mauvaise. Là, on fait la promotion de la mauvaise, OK? Alors, la première, c'est l'égalité d'opportunité. Ça veut dire qu'il faut mettre en place et s'assurer qu'il n'y a aucun processus qui va discriminer une personne et qui va l'empêcher d'avoir accès à une opportunité pour manifester, encore une fois, un talent ou une compétence. Donc, l'égalité d'opportunité, c'est un mécanisme qui vise à empêcher les blocages potentiels pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que ce soit la catégorie sociale, le sexe, le genre, l'ethnicité, peu importe. Ça, là, ce sont des catégories et jamais une personne doit être bloquée dans la vie de manifester un talent qui va la valoriser elle et la société. Donc, ça, c'est l'égalité d'opportunité. C'est-à-dire tout le monde doit pouvoir manifester un talent.
Parce que la réalité, c'est qu'on ne naît pas tous égaux, même si on aimerait bien ça, mais il y en a qui viennent avec des moyens financiers qui sont pas aussi grands que d'autres. Il y en a qui ont plus d'argent pour envoyer leurs enfants dans des écoles qui coûtent très cher, pour pratiquer un sport qui coûte plus cher. On ne naît pas tous égaux. Et l'égalité d'opportunité, c'est de s'assurer que même si tu viens d'un milieu qui est plus difficile, ben, tu vas avoir autant de chances de réaliser tes rêves que la personne à côté de toi. C'est pas parfait, mettons, là, mais l'objectif de l'égalité d'opportunité, c'est un petit peu ça.
Ben, c'est du moins empêcher les blocages qui vont discarter une personne de valeur. Parce que ça, c'est grave. C'est très, très grave à cause d'un enjeu superficiel, d'étiquette. Une personne ne peut pas manifester un talent. C'est grave pour tout le monde, la société elle-même. Et ça, c'est l'égalité d'opportunité. Ça, c'est la bonne forme d'égalité dont faut prendre soin. Mais on parle pas de celle-là en ce moment parce que les groupes minoritaires et les activistes ne parlent pas de cette forme d'égalité-là. On parle de l'égalité de résultats, ce qu'on appelle aussi des quotas. Ça, ce n'est pas basé sur la compétence, c'est basé sur les étiquettes, c'est-à-dire une catégorie. Donc là, ce qu'on essaie de jouer, c'est il faudrait qu'il y ait une représentativité des personnes dans tout milieu représentatif dans la société de différentes catégories. Là, le problème avec ça, c'est de dire, OK, mais pour quelle catégorie? Il faut balancer pour quelle catégorie? Puis on va dire, ben, pour le sexe, pour les hommes et les femmes, OK, ça, c'est une catégorie. OK, mais pour l'ethnicité, OK, mais il y a combien d'ethnicités? Ben, il y a les blancs et les noirs. Il y a juste ça. Ben, non, il y en a plus. OK, mais il y en a combien? Il y en a une infinité. Tout ça pour dire que des catégories, c'est une création humaine. C'est infini. On peut fabriquer une infinité de ce qu'on appelle des catégories humaines. C'est virtuel. Ce sont des balises d'orientation pour se comprendre. Puis c'est correct, ça fait partie du langage verbal. Mais il y en a une infinité. Tu ne peux pas balancer par quota toutes les catégories du monde, tout simplement parce qu'il y a une infinité. Si on regarde juste LGBTQ, les lettres continuent à s'additionner parce qu'on crée des nouvelles catégories à l'intérieur. Comment tu balances tout ça? Donc, c'est important de comprendre que l'égalité de quotas, c'est théoriquement impossible. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas basé sur le comportement ou la compétence. C'est basé sur ce qu'on appelle l'identité de groupe associée à la catégorie. Et plus tu promouvois l'égalité de résultats, plus on augmente les conflits intergroupes et plus tu diminues la valeur de la compétence. Et là, on est dans ça présentement. Et ce n'est pas la bonne forme d'égalité. Et donc, c'est un thème qui est super important parce qu'il faut distinguer les deux types et comprendre mais pourquoi un type, c'est bon pour tout le monde puis l'individu, puis pourquoi un autre type, c'est pas bon. Fait que ça, je pense que ça s'appliquait à 100% dans notre thème d'aujourd'hui.
Là. Absolument. Puis il y avait une nouvelle ce matin aussi qui faisait état de toutes les médailles qui ont été gagnées depuis le début des Jeux olympiques. On a gagné, oui. En fait, plusieurs médailles puis on est bien, bien contents. Mais c'est seulement des femmes qui ont gagné. Oui. Et on a beaucoup mis de l'avant que ce sont des athlètes féminines qui ont gagné les médailles aux Jeux olympiques depuis le début.
Oui.
Puis en même temps, OK, c'est correct de mentionner qui a gagné, mais je me dis, si ça avait été seulement des hommes et aucune femme, je ne suis pas sûre qu'on aurait placardé les médias en disant uniquement des hommes ont gagné des médailles jusqu'à maintenant. Essentiellement, des Canadiens ont gagné des médailles et on est fiers. Que ce soit un homme ou une femme, on gagne puis on est bon. Et la fierté, elle est au niveau national. Elle est vraiment sur notre identité. On est content puis on est fiers de nos Canadiens. Pourquoi diviser les hommes et les femmes là-dedans?
C'est parce que c'est les féministes radicales sont très fortes. Ça fait longtemps qu'ils travaillent à mettre cet agenda-là typiquement féminin et ça fait en sorte qu'on souligne ça. Mais c'est comme les femmes, ça c'est une catégorie, mais il y a plusieurs types de catégories. Il y a plusieurs activistes de chaque minorité qui mettent l'accent sur l'identité de groupe plutôt que l'individu. C'est une personne qui a gagné une médaille, peu importe dans quelle catégorie elle est. Donc, c'est l'obsession de l'identité de groupe et l'obsession de la catégorie. Et ça, c'est ce qui crée des conflits et des divisions sociales. Mais c'est toujours sous le couvert de l'inclusion, être gentil, sauver les personnes victimes. Ça fonctionne pas comme ça, la réalité humaine. On est des individus, on appartient à des millions de catégories qui vont continuer à se créer et se fier là-dessus et faire la promotion d'une catégorie de groupe, c'est désindividualiser une personne et ça augmente les conflits.
Puis c'est un petit peu, en fait, dans le terme des médailles aussi, là, également. Là. Tout le monde a une médaille, tout le monde est bon, tout le monde a les mêmes compétences de manière équitable.
Bien, c'est que si, par exemple, moi, j'ai pas une médaille, je peux dire, ah, c'est parce que toi, tu as un privilège à cause de ta catégorie. Et donc, moi, je n'ai pas ma médaille à cause de ma catégorie. Fait que tu peux te servir de ta catégorie ou de ton étiquette parce que tu veux utiliser ça pour dire il y a une injustice. Donc, c'est vraiment une mauvaise idée à tout point de vue, mettre l'accent sur la catégorie des gens. Parce qu'il y en a une infinité, ça n'existe pas et on s'en sert pour faire des pressions. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec le jeu auquel il faut jouer, c'est-à-dire la compétence, qui est la seule marchandise universelle chez l'humain, là, c'est le comportement. Et le comportement n'a pas de sexe, n'a pas de genre, n'a pas d'ethnicité, c'est le comportement. Et ça, c'est valorisant pour les humains. Les catégories, c'est un jeu dont on se sortira jamais.
On s'en sortira pas, tu penses?
Non. Non.
Il va toujours en avoir.
À moins qu'il y ait des leaders qui se réveillent, mais on est probablement le pire pays pour ça actuellement parce que tout est basé sur les catégories en ce moment. Donc, on n'est pas dans le meilleur gouvernement pour ça. Puis il y a des courants mondiaux qui font ces pressions-là. Donc, tu sais, c'est des périodes.
Et c'est ça l'affaire. Hein. C'est pas juste ici au Canada.
Non, non, c'est un peu partout.
Tu as
des pays pires que d'autres. Le Canada, c'est un peu pire, mais c'est des courants qui sont globaux, là.
Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce sujet sur les médailles. On n'aura pas le temps de prendre d'autres appels, mais c'est quand même intéressant de vous lire au 98985. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'avec les réactions qu'on a, autant par texto que pour les appels, il y a une grande majorité de gens qui ne semblent pas d'accord avec le fait de donner des médailles à tout le monde et que tout le monde soit égaux, là, sur un même pied d'égalité. Mais quand on regarde en pratique dans les écoles, par contre, les enseignants vont dire que c'est donc bien difficile de dire à un parent que son enfant n'est pas performant. Fait que les gens qui nous écrivent, c'est probablement des gens qui ont des enfants.
C'est le travail d'activiste. Oui, les activistes, là, ça ne représente pas les minorités. C'est une minorité dans la minorité, mais qui sont très agressifs, sont très violents. Et c'est une forme d'intimidation, puis les gens ne sont pas équipés pour faire ça, ni les gouvernements, apparemment.
Oui, puis ça finit par s'étendre aussi à une grande partie de la population, parce que c'est pas mal plus difficile d'être enseignant aujourd'hui que ce l'était il y a 10 ans.
C'est clair,
ça,
mais c'est une petite partie.
Merci d'avoir été là. Pause, bulletin de nouvelles, on se retrouve dans quelques minutes.